Nos services francophones vers l'Afrique, tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Le Monde aujourd'hui, édition du 29 octobre 2014, en direct de Washington, Chérubin Dorcil et Morgane Guériac. Bonsoir Morgane.
Bonsoir Chérubin, bonsoir l'Afrique.
Au sommaire ce soir, Burkina Faso, l'opposition persiste et signe, Blaise Compaoré doit renoncer à un nouveau mandat.
L'Assemblée nationale va examiner demain jeudi un projet de loi visant à modifier la loi fondamentale pour faire passer de 2 à 3 le nombre maximum de quinquennats présidentiels.
La Zambie, de nouveau dans une transition politique après la mort hier du président Michael Sata.
Manifestation à Cotonou au Bénin, l'opposition réclame des élections locales avant la fin de l'année.
Arrivés dans le nord de la Syrie, de nouveaux combattants kurdes et syriens pour faire face au groupe État islamique.
Et nous aurons les sports et la musique en fin d'émission, mais d'abord le journal.
Au Burkina Faso, plusieurs milliers de personnes ont de nouveau défilé ce matin à Ouagadougou, cette fois-ci 100 heures, et cela au lendemain d'une manifestation d'ampleur historique dénonçant un projet de révision constitutionnelle qui permettrait le maintien du pouvoir, le maintien au pouvoir du président Compaoré. Jean-Roger Billon.
Les protestataires, d'après l'AFP, arboraient des drapeaux rouges et ont défilé au cri de « Libérer Kossiam », le nom du palais présidentiel. Un important cordon policier encadrait le cortège qui a suivi un itinéraire différent de celui de la veille et s'est dispersé sans violence. La marche, organisée par les syndicats et la société civile regroupée au sein de la Coalition nationale contre la vie chère, ponctue une journée d'appel à la grève générale qui a abouti à un ralentissement des services publics et de certaines grosses entreprises. Elle fait suite à la manifestation historique de mardi qui a réuni des centaines de milliers de personnes, 1 million selon l'opposition, et qui s'est terminée par des affrontements durant 3 heures entre plusieurs centaines de jeunes et la police. L'Assemblée nationale va examiner demain jeudi un projet de loi visant à modifier la loi fondamentale pour faire passer de 2 à 3 le nombre maximum de quinquennats présidentiels. Ce changement permettrait à M. Blaise Compaoré, arrivé aux affaires par un putsch en 1987 et qui devait achever en 2015 son dernier mandat après 2 septennats et 2 quinquennats, de se présenter à nouveau à l'élection présidentielle.
Violent accrochage la nuit passée dans le nord du Mali, dans la vallée de l'Amémétaï. La force française Barkhane s'est opposée à un important groupe armé terroriste de type Al-Qaïda au Maghreb islamique, indique le ministre français de la Défense. Jean-Yves Le Drian n'a pas fourni davantage de précisions, notamment sur d'éventuelles victimes.
Combats entre forces pro-gouvernementales et islamistes à Benghazi, en Libye. Des combats de rue ont eu lieu dans plusieurs quartiers de la capitale. Un obus est tombé sur des tentes dressées pour des funérailles. Au moins 10 personnes, dont 7 civils, ont été tuées, selon des sources médicales et militaires, portant le bilan des affrontements à plus de 200 en 2 semaines.
Épidémie d'Ebola, le nombre de nouveaux cas a diminué au Libéria, le pays le plus touché par l'épidémie, mais il est prématuré d'affirmer que la maladie recule, a souligné aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé. Aux États-Unis, le secrétaire américain à la défense, Chuck Hagel, a décidé de placer tous les soldats américains en quarantaine pendant 21 jours dès leur retour de mission en Afrique de l'Ouest, où ils participent à la lutte contre l'épidémie.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila est arrivé cet après-midi à Beni suite aux massacres qui ont fait 80 morts ce mois-ci dans le nord Kivu, des crimes attribués aux rebelles ougandais ADF. D'après les autorités locales, il s'agit d'un voyage de compassion avec la population au cours duquel le président prévoit d'écouter les recommandations des civils pour améliorer la situation sécuritaire dans la région. Notons que le président Kabila ne s'est jamais exprimé sur ces dernières tueries.
Le président zambien Michael Sata est décédé hier soir à 77 ans à Londres. La maladie le tenait à l'écart de la scène publique depuis plusieurs mois. Idriss Fall.
Le secrétaire général du gouvernement Roland Sika a annoncé le décès de Michael Sata à l'hôpital King Edward VII de Londres. Surnommé le roi Cobra pour son franc-parler, le président Sata n'avait plus été vu en public depuis son retour de New York le mois dernier. Pour des raisons de santé, il n'avait pas pu prononcer son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies. Michael Sata avait remporté la présidentielle zambienne en 2011 à sa 4e tentative. Il se voulait champion des pauvres et pourfendeur de la corruption. Ses 3 années de présidence ont été marquées par une dérive autoritaire. Il avait aussi resserré les liens avec la Chine, qui a de gros intérêts dans les mines de cuivre, dont la Zambie est le 7e producteur mondial. D'après Edgar Lungu, ministre de la Défense, le gouvernement reste inchangé. Le vice-président Guy Scott, d'origine britannique, assure l'intérim jusqu'à la tenue de l'élection présidentielle anticipée prévue d'ici à la fin janvier.
En République centrafricaine, le Parlement provisoire d'y avoir renoncé à son projet de mise en place d'une commission d'enquête sur la gestion du don angolais de plus d'un milliard de francs CFA. Position exprimée ce mardi au cours d'un point de presse. Le point avec Félix Yepassi Zembrou.
La mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur le présumé détournement d'une partie du don angolais a été décidée le 23 octobre dernier au cours d'une concertation des conseillers nationaux. Une semaine plus tard, le CNT donne un autre son de cloche. Thierry Patrick Akolosa, son rapporteur général, donne ici les raisons de ce changement.
Eu égard à l'intervention de la communauté internationale, et plus particulièrement celle du médiateur international de la crise centrafricaine, et dans un souci d'apaisement, ont décidé de surseoir à la mise en place de la commission d'enquête parlementaire prévue sur la gestion du don angolais.
La semaine dernière, la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, avait annoncé avoir saisi la Cour des comptes pour enquêter sur cette affaire de détournement d'une partie du don angolais. Par ailleurs, à Bangui, la MINUSCA a annoncé aujourd'hui, au cours d'une conférence de presse, que les violations des droits de l'homme et l'enrôlement des enfants dans les groupes armés ont pris une proportion inquiétante dans le pays. Selon le Bureau de la communication et de l'information publique de la force onusienne, des actions sont en cours pour remettre sur pied l'appareil judiciaire centrafricain.
Visite éclair du secrétaire général de l'ONU en Somalie. Depuis Mogadiscio, la capitale, Ban Ki-moon a appelé les donateurs à davantage d'efforts pour éviter une nouvelle famine dans ce pays dévasté par de décennies de guerre civile et des sécheresses chroniques. Claire Morin-Gibourg.
Accompagné du président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, le chef de l'ONU, a rencontré le président somalien Hassan Sheikh Mohamoud dans l'enceinte fortifiée de l'aéroport de Mogadiscio, qui abrite le siège de l'AMISOM, la force africaine en Somalie. Redoutant une nouvelle famine dans le pays, Ban Ki-moon a rappelé que plus de 3 millions de Somaliens ont besoin d'aide. Il demande donc aux donateurs d'augmenter leurs contributions. La dernière visite de M. Ban à Mogadiscio remonte à 2011. Il s'agissait alors de la première visite d'un secrétaire général de l'ONU en près de 20 ans. La famine, officiellement décrétée par l'ONU, avait fait, cette année-là, plus de 250 000 morts.
Le Monde aujourd'hui.
L'armée et les rebelles sud-soudanais se sont affrontés à Bentiu, importante ville pétrolière du nord du pays. C'est ce qu'indique l'armée et des travailleurs humanitaires. Des explosions ont été entendues toute la journée, disent-ils. Ces combats mettent fin à plusieurs mois de calme relatif dans la capitale de l'État d'unité. Ils interviennent alors que la saison des pluies se termine, rendant les routes plus praticables et les mouvements de troupes plus faciles.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Les combattants kurdes qui défendent la ville de Kobané dans le nord de la Syrie contre les djihadistes de l'État islamique ont reçu des renforts. Camille Grosdidier.
Une cinquantaine de combattants de l'armée syrienne libre sont arrivés mercredi à Kobané en provenance de la Turquie. Après avoir passé 3 ans à tenter de renverser le régime de Bachar al-Assad, ils ont rejoint la lutte contre l'État islamique. Mercredi également, un groupe de combattants kurdes irakiens a atterri dans un aéroport du sud-est de la Turquie avant de se diriger vers la frontière avec la Syrie, sous escorte des forces de sécurité turques. Par ailleurs, un convoi transportant des armes lourdes a également traversé la Turquie en direction de Kobané. Le gouvernement turc a accepté la semaine dernière de permettre à 150 combattants kurdes irakiens de transiter par son territoire. L'aviation américaine a mené 4 frappes aériennes dans la région de Kobané mardi, alors qu'on signalait également des frappes aériennes suivies d'explosions mercredi.
Des pourparlers sur la reprise des livraisons de gaz russe à Kiev à l'approche de l'hiver ont été relancés aujourd'hui à Bruxelles entre l'Union européenne, l'Ukraine et la Russie. Le commissaire européen pour l'énergie, Günther Oettinger, qui sert de médiateur, a déclaré que les chances d'un accord intérimaire ne dépassent pas 50%. Le géant gazier russe Gazprom, sous contrôle étatique, a suspendu ses livraisons à l'Ukraine en juin à cause d'une dette d'environ 4,5 milliards de dollars.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réagi contre ses critiques aux États-Unis, disant que c'est le résultat de sa décision de défendre Israël et ses intérêts en matière de sécurité nationale. Hier, Netanyahou avait confirmé son intention de construire 1 000 nouveaux logements à Jérusalem-Est. Un responsable américain anonyme l'a qualifié de lâche à cause de cette mesure. Selon la revue The Atlantic, la Maison-Blanche a pris ses distances par rapport à cette déclaration.
Pas de surprise, pas de reprise du dialogue pour le moment entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Pyongyang a en effet rejeté l'offre de Séoul pour que les rencontres se tiennent dès demain dans le village frontalier de Panmunjom. La cause évoquée, des activistes sud-coréens ont renvoyé des tracts en territoire nord-coréen.
Le Pakistan a renouvelé son engagement en faveur de la paix et de la réconciliation en Afghanistan et promet d'ouvrir un nouveau chapitre dans ses relations avec son voisin déchiré par la guerre. Cette déclaration coïncide avec la visite à Islamabad du représentant spécial américain pour l'Afghanistan et le Pakistan, Dan Feldman.
Au moins 10 personnes sont mortes et des centaines d'autres portées disparues dans un glissement de terrain au Sri Lanka. Au moins 120 maisons ont été détruites, indiquent les autorités. Cela s'est produit à 192 km de Colombo, la capitale.
Voilà pour le journal. Il est 18h41 en temps universel. Chez Roubaix d'Orsil et Morgane Guiriac en votre compagnie. Restez branchés pour nos dossiers du jour. Après plusieurs années d'exil, les réfugiés libériens massés dans un camp dans la banlieue d'Accra au Ghana voudraient bien retourner chez eux. D'abord, beaucoup d'entre eux n'ont pas l'argent pour payer le voyage et le virus Ebola reste une barrière invisible et infranchissable. Lionel Gaïma.
Amos Bouyé a fui le Libéria il y a 12 ans alors que les combats faisaient rage dans le pays. Il voudrait bien rentrer, mais a raté les repatriements volontaires organisés par le Haut Commissariat des Nations Unies chargé des réfugiés. Il n'a pas les moyens de payer le voyage retour, mais aussi avec l'Ebola qui a fait plus de 2400 morts dans son pays natal, Bouyé sait qu'il va encore falloir patienter. Parce que maintenant, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de route et aucune frontière n'est ouverte du Ghana au Libéria. Peut-être il y a d'autres moyens de se rendre au Libéria, mais je ne veux risquer ma vie en commettant l'erreur de franchir plusieurs frontières illégalement. Alors j'ai décidé d'attendre. Le camp de réfugiés de Boudouburam est situé dans la banlieue d'Accra. Il est beaucoup plus calme que d'habitude. Des camions et bus remplis quittaient régulièrement le camp pour un voyage de 5 jours traversant la Côte d'Ivoire vers le Libéria. Au fil des années, beaucoup de Libériens sont rentrés particulièrement lorsqu'ils ont perdu leur statut de réfugié en 2012. Pour ceux qui sont restés, c'est une attente difficile. Tout comme pour les conducteurs de véhicules qui devraient assurer le transport et qui rongent leurs freins sur place. Robert McIntosh du syndicat des transporteurs privés du Ghana.
Now as you can see, things are not the way it should be because whenever cars are going from here, the place is packed.
Comme vous voyez, les choses ne sont plus comme elles étaient parce que lorsque nos véhicules partaient d'ici, ce lieu était bondé. Les gens montaient et descendaient, la clientèle alimentait les affaires, les gens allaient et venaient. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Nous sommes très inquiets. Face à la situation, les clients ont mis leurs bagages ici pour presque 3 à 4 mois. Aucun moyen de partir, les bagages sont restés dans nos camions, le travail lui-même est bloqué. Et les nouvelles venant du Libéria sont toujours très sombres. Peter Kaba a perdu 6 parents, dont 5 en un seul mois à cause de la fièvre hémorragique Ebola.
I was called from Liberia.
J'ai reçu un appel du Libéria m'annonçant que ma grande sœur est morte de la maladie. Après son enterrement, sa fille aînée est décédée. Ensuite, le petit frère a péri, puis l'autre sœur a suivi. Il y a eu 5 morts, rien que ce mois-ci. Avec les frontières fermées, l'emploi se fait rare et pour beaucoup des réfugiés libériens du Ghana, le seul espoir est de prier que les choses aillent mieux dans leur pays d'origine.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
L'opposition béninoise était dans les rues de Cotonou ce 29 octobre pour exiger du gouvernement la tenue effective des élections municipales, communales et locales avant fin 2014. Elle réclame également la sortie d'une liste électorale ad hoc et consensuelle. La marche a drainé plusieurs milliers de participants, nous dit Peggy Ludovic Dagba.
C'est sous ces slogans et bien d'autres encore que plusieurs milliers de Béninois ont répondu à l'appel des partis politiques, de l'opposition et la société civile béninoise pour la marche de ce 29 octobre 2014. Une marche qui a emprunté l'axe Étoile Rouge, place Lénine, située à l'est de Cotonou. À l'arrivée, plusieurs messages ont été délivrés par les marcheurs. Paul Isaïko, de la Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin, et Philippe Noudianouma, président du Parti communiste du Bénin.
Ce que je vois devant moi me permet de dire aujourd'hui et définitivement que Yair Bonny et son système ont échoué et sont terminés.
Le peuple voit que les institutions ont pris en otage tout le monde, à la fois le gouvernement, à la fois Corse les pays, ils ont pris en otage. C'est pourquoi, quand les institutions ont échoué, c'est le peuple qui se prend en charge et qui prend ses responsabilités. Aujourd'hui, j'appelle tout le peuple à prendre ses responsabilités, à aller établir une liste alternative ad hoc, différente de la lépique du Yair Bonny, différente de celui de Corse les pays. Les deux nous trompent, nous trouvent en rond. Peuple du Bénin, debout, allons-y, Yassa.
Éric Rouleté, membre de l'Union fait la nation, saisira l'occasion pour répondre aux attaques depuis quelque temps de la mouvance présidentielle qui laisse croire que l'opposition béninoise fait du dilatoire parce qu'elle a peur des élections.
Chacun voit que le COSLEPI est composé majoritairement de gens de la mouvance. Premièrement, que c'est le gouvernement qui refuse de mettre à disposition les ressources en temps et en heure. Chacun voit que les différentes torpilles sont du fait du gouvernement. Chacun voit que les ministres qui prennent l'argent du pays pour se promener le week-end, qui ne sont pas de l'opposition, par conséquent, nous les connaissons. Donc qu'ils disent cela, ça ne surprend personne. Donc il s'agit pour nous de nous mobiliser pour arracher l'organisation des élections, des élections transparentes. Il me semble que Yair Bonny a peur des élections. Et c'est plutôt pour ça qu'il organise cette torpille au quotidien.
Cette marche n'est que la première de toute une série, ont affirmé les organisateurs. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, pour La Voix de l'Amérique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Le tribunal de Boaké, en Côte d'Ivoire, a condamné à un an de prison ferme et à 360 000 francs CFA d'amende un père coupable d'être sur le point de marier sa fille de 11 ans à un cousin de 42 ans, aujourd'hui introuvable. Ce type de procès pour union précoce et forcée est le premier dans le pays et un des premiers en Afrique où le mariage forcé des filles est assez fréquent, Morgan.
Le père a été arrêté grâce au directeur de l'école de la fillette qui l'a signalé à l'association Jaka Willy qui a prévenu la police. Nathalie Barge a joint à Boaké Moussa Konaté, directeur adjoint de cette ONG de défense des droits de l'enfant.
La première intervention, c'était le jeudi 16 octobre. Le responsable de ce comité de protection de la petite enfance a été informé par le directeur de l'établissement de ce que une des élèves de son établissement serait sur le point d'être mariée alors qu'elle avait 11 ans. Ayant été saisi, le responsable du comité de protection nous a remonté l'information et à notre tour, nous avons mis en branle tout notre système de partenaires pour pouvoir aller au chevet de cette fille, y compris, bien entendu, la police, la justice et tout. Donc la police a intervenu sur place, le père a été interpellé, entendu, et le procureur a été saisi de l'affaire.
Vous disiez que les parents étaient sur le point de marier leur fille.
La cérémonie de mariage était en cours lorsqu'ils ont été interpellés.
Aujourd'hui, cet enfant, est-ce que elle bénéficie d'un processus de protection?
Effectivement, lorsqu'il y a des gens de situation, bien entendu, la famille n'est pas toujours d'accord forcément. Mais au niveau de l'ONG, nous avons un mécanisme de suivi pour ce genre de cas-là. Parce que c'est vrai, cette fois, l'affaire est arrivée au tribunal. Mais avant, nous avons eu à traiter des cas de mariage précoce qui ont été réglés sur la base communautaire. Il y a eu des interventions au niveau des responsables communautaires pour que le mariage soit suspendu ou que le mariage ne se fasse pas. Mais là, cette fois-ci, l'affaire est arrivée en justice, le père a été condamné. Et donc, au niveau de l'ONG, il y a un mécanisme de suivi qui est mis en place pour pouvoir en tout cas s'assurer que la fille ne soit pas encore victime d'autres abus ou qu'elle ne soit pas menacée purement.
Alors il s'agit du premier procès de ce genre en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que cela représente pour vous hein?
Pour nous, en tant qu'organisation œuvrant pour la protection des droits de l'enfant, on dirait que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose si aujourd'hui l'administration, les autorités judiciaires arrivent à donner des condamnations pour des personnes qui sont coupables de ce genre d'actes-là. Ça pourra servir de leçon à ceux qui veulent s'adonner à cela. Et à notre niveau, ça nous aide quelque peu dans nos efforts de sensibilisation. Parce que désormais, on sait qu'en Côte d'Ivoire, lorsqu'on marie sa fille de force et de façon précoce, on peut être passif d'une peine de prison.
Moussa Konaté de l'ONG Jakawili à Boaké en Côte d'Ivoire. Rendez-vous samedi à 19h35 TU sur la VOA pour l'intégralité de cette interview dans le magazine au féminin.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, le bras de fer de tous les dangers au Burkina Faso. Le président Blaise Compaoré défiera-t-il ses opposants en briguant un nouveau mandat? Vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
La Cour suprême américaine a récemment confirmé la validité d'une nouvelle législation du Texas qui exige des électeurs inscrits sur les listes électorales qu'ils présentent une pièce d'identité avec photo lorsqu'ils cherchent à voter. Les détracteurs de cette loi disent qu'elle impose un fardeau indu aux pauvres, aux minorités, aux personnes âgées et aux handicapés. Timothée Donongmaï nous en dit plus.
Les élections de mi-mandat sont prévues le 4 novembre, mais le vote anticipé a déjà commencé. Pour le procureur général du Texas et candidat au poste de gouverneur de cet État, Greg Abbott, il est clair que la nouvelle loi empêchera la fraude. La fraude électorale est réelle et il faut y mettre fin. Comment pouvez-vous prouver une usurpation d'identité à l'absence de carte d'identité? Vous ne pouvez pas. C'est exactement pourquoi cela est nécessaire, déclare Greg Abbott. Toujours selon les partisans de la loi, la plupart des pays démocratiques exigent des électeurs qu'ils présentent une pièce d'identité. Mais les critiques s'inscrivent en faux. On a signalé que très peu de cas de fraude électorale aux États-Unis et il est beaucoup plus important, à leur avis, d'encourager la participation dans un État où l'on empêchait, à une époque, les Noirs et les Hispaniques de voter. De surcroît, la majorité des pays démocratiques n'exigent pas de telles pièces d'identité, ajoute-t-il. D'autant que beaucoup de gens, pour une raison ou une autre, n'ont pas de tels papiers sur eux au moment voulu, explique Marianela Acuna de l'ONG Vote Riders.
Il y a ceux qui ont besoin de renouveler leur pièce d'identité. Il y a aussi des gens qui ont besoin d'obtenir une carte d'identité pour la première fois et qui n'ont pas les documents nécessaires pour prouver leur changement de nom ou leur date de naissance.
Le professeur de sciences politiques Mark Jones de l'Université Rice au Texas chiffre à environ 500 000 le nombre de Texans ne disposant pas d'une pièce d'identité en bonne et due forme. Or, un certificat de naissance coûte 25 $ pièce, en plus du déplacement nécessaire pour l'obtenir. Pour nombre de personnes, c'est un handicap fait-il valoir. Les experts sont d'avis que si la nouvelle loi n'affectera probablement pas les résultats de la majorité des scrutins dans quelques cas où les candidats sont au coude à coude, elle pourrait influer sur l'issue du vote. Des groupes d'activistes en faveur des droits civiques, tels que le Texas Organizing Project, ont déployé des volontaires pour aider ceux dont les papiers ne sont pas en règle. Mais encore faut-il que les gens se dérangent pour voter.
De nouveau en studio pour les sports ce soir, Jacques Aristide. Qu'est-ce que tu fais là?
Bonne question, Gabi.
Dernier avertissement de la FIFA, Jacques, au Nigeria. Ce pays a jusqu'à vendredi en milieu de journée pour faire annuler une décision judiciaire remettant en cause les dernières élections à la tête de sa fédération de football, pas vrai?
Oui, cette décision est perçue par la Fédération internationale comme une ingérence inadmissible dans les affaires du football nigérian. Donc, passé le délai de vendredi, le Nigeria sera suspendu jusqu'au prochain congrès de la FIFA, les 28 et 29 mai prochains, ce qui empêcherait ce pays de défendre son titre à la CAN 2015 au Maroc. En outre, tous les clubs nigérians seraient bannis des tournois internationaux.
Et à propos de la CAN 2015, justement, l'Afrique du Sud va retarder la publication de sa liste pour les deux premiers matchs de qualification. Et c'est suite au meurtre de son gardien et capitaine, Senzo Meyiwa.
Le coach sud-africain Ephraim Mashaba devrait annoncer la liste demain. Lors d'une conférence de presse cette semaine, il avait dit que Meyiwa aurait été en tête de la liste. C'était la cheville ouvrière des Bafana Bafana qui lui doivent leur bon parcours vers la CAN 2015. Ils affronteront le Soudan le 15 novembre et le Nigeria 4 jours plus tard.
Tragique disparition d'un autre joueur de football à signaler.
Celui du milieu de terrain, Thomas Andrew Morgan, sociétaire d'un club norvégien né de parents anglais en Norvège. Il avait été porté disparu au cours du week-end. Son corps a été repêché hier dans l'embouchure de la rivière Hønseselva et identifié aujourd'hui.
Et en ce qui me concerne, c'est la bonne saison parce que la NBA a démarré. C'est parti depuis hier.
Et vous êtes tout excité.
Définitivement.
Oui, alors oui, San Antonio, tenant du titre, a battu sur le fil Dallas hier soir, 101 à 100. Les Lakers de Los Angeles ont été défaits par Houston à 90-108. La Nouvelle-Orléans s'est imposée face à Orlando, 101 à 84.
Bravo San Antonio, merci Jacques Aristide.
On passe à la page musicale avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane, salut Gabi.
Au nom du Conseil supérieur de la diaspora forestière, tenez ça, ça c'est pour vous. Obino.
2004 à 2014, cela fait exactement 10 ans que le chanteur Aubin Théa produit des sonorités folkloriques de la région forestière guinéenne avec un succès retentissant. Au fil des années, il a réussi à populariser un style musical métissé au rythme du coupé décalé ivoirien. Aubin sera notre invité ce soir dans le RM Show.
Merci Roger.
C'est moi qui vous remercie Morgane.
Retrouvez Roger Muntou tous les soirs dans le RM Show à 20h temps universel.
Avec l'unité, la foi, on peut faire de la Guinée un paradis. Bannissons l'ethnocentrisme, bannissons l'égoïsme, bannissons les haines. Évoluons notre chère région, la Guinée forestière. Opino chante pour vous, diaspora forestière, diaspora forestière, diaspora. Nous dirons Kissidougou, Gekedou, nous irons Messanta, Thierry Coré, nous irons Yomoulin, Alola. Chantez partout, chantez, chantez partout que la haine, l'ethnocentrisme n'ont pas de place dans nos cœurs. Yeah.
Antoine Sakoubogi, États-Unis, le démocrate. Jean Collier, Allemagne. Jean-Baptiste Collier, Mexique. Mon émou, Néma Claude.
Roger Muntou, le rendez-vous.
Dans
C'est pour 20h, temps universel. Ici s'achève Le Monde Aujourd'hui, une édition mise en onde par Michel Joseph avec Nick Ivanov à la console technique.
Laissez-nous vos commentaires et questions sur notre page Facebook, et n'oubliez pas notre nouvelle adresse internet voaafrique.com. Bonsoir. Le monde, c'est toi.